te regarder. J'ai le cœur en branche, tout en fleurs d'été. Si ma bouche hésite, si je ne dis rien, c'est qu'à dire vite. On ne dit pas bien, mais donne, donne-toi la peine de penser à moi. Mais donne, donne-moi la veine de penser à toi. J'ai le cœur qui casse lorsque tu es loin. Il te traîne, il se lasse, bat de moins en moins. Mais voici qu'il sombre. Commence notre grand amour et donne, donne-moi la chance d'y penser toujours.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et aujourd'hui, on va parler de psychiatrie et de la de l'ambiance sécuritaire qui arrive un peu dans la législation. Bonjour André.
Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on va aborder quatre points différents aujourd'hui. Tout d'abord, une nouvelle toute fraîche, publiée dans le SPI Média, livraison de ce matin, une proposition de loi des Républicains visant à ce que, dans le cadre du fonctionnement des unités pour malades difficiles, la règlement actuel, enfin la législation actuelle accompagnée d'un règlement sur le contrôle judiciaire de l'isolement contention, le contrôle judiciaire obligatoire pour les maintiens, soit n'est pas court ou soit atténué sur, du moins sur les rigueurs du formalisme, d'une part. D'autre part, un billet publié hier par Mathieu Bellassène, après concertation avec moi notamment, sur l'ambiance sécuritaire depuis les tueries du 2 décembre à la Tour Eiffel et de la fin du mois de décembre à Meaux, cette tuerie familiale. Enfin, une polémique sur le déploiement des nouveaux métiers en santé mentale et de la pérédance des pères aidants en matière de précarité. On date du mois de novembre. Et enfin, une jurisprudence de la Cour de cassation du 6 décembre, commentée dans Dalloz Actualités du 20 décembre, sur la publicité des débats en matière de contrôle judiciaire des soins sans consentement. La publicité des débats, c'est-à-dire que l'audience doit être publique.
Riche sommaire, donc.
Comment ?
Un riche sommaire, donc.
Oui. Donc, alors, commençons par cette dépêche de Spimedia. Alors, pour comprendre cela, il faut voir que depuis l'accumulation des décisions QPC depuis fin 2010 en matière d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, et entre autres sur ce domaine, les députés, les parlementaires de la droite républicaine, de la droite sécuritaire, je parle pas du centre, je parle pas des démocrates chrétiens, mais bien de la droite républicaine, les démocrates chrétiens sont en général européistes. Ce sont des européistes, pas tellement des souverainistes, mais également ceux du Rassemblement national protestent de plus en plus nettement contre certaines dispositions de la Constitution actuelle de la Ve République, dont le libellé de l'article 55 de cette Constitution qui stipule que les traités internationaux régulièrement ratifiés par la France, par le gouvernement, et pour autant qu'ils soient respectés de façon bilatérale ou multilatérale, ont une valeur normative supérieure au droit interne français. Donc, ces traités internationaux, dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui a comme juridiction, qui la rend exécutoire, la Cour européenne des droits de l'homme, à valeur exécutoire, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ont valeur exécutoire en droit interne français. Cela veut dire qu'en fait, depuis que la France est intégrée dans l'Union européenne, depuis que la France a signé les différents protocoles au Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe c'est un organisme diplomatique, juridique et diplomatique, distinct de l'Union européenne, eh bien, les différents protocoles qui font que la jurisprudence de la Cour européenne s'impose, en fait, juridiquement, la France a perdu sa souveraineté. Et la France a perdu par ailleurs sa souveraineté en ce que les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, liés à l'Union européenne, sur le fonctionnement général de l'Union, bien, et notamment les normes, c'est que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne s'applique en droit interne. Par ailleurs, les dispositions de la Commission européenne doivent être intégrées en droit interne, soit par ordonnance, soit par décret, soit par législation. Bien. Si bien que juridiquement et politiquement, et sur une large partie de ses prérogatives, la France, comme les autres États de l'Union européenne, a perdu sa souveraineté. Donc eux réclament un retour à la souveraineté française et un retour au fait que la France soit souveraine au plan juridique. Donc ils entendent les uns les autres réformer à tout le moins l'article de la Constitution et mettre fin au fait que les traités internationaux ont valeur supérieure en droit interne. Ils entendent réformer la Constitution dans le sens que la norme supérieure en France, c'est la Constitution, point. Bien. Et par ailleurs, quant au Rassemblement national et certains députés de la droite républicaine, ils entendent mettre fin aux prérogatives accentuées du Conseil constitutionnel. Donc mettre fin à ce qu'ils appellent, ce qui est contesté depuis fort longtemps, mettre fin au gouvernement des juges. Le gouvernement est assumé par l'exécutif, le président de la République étant élu au suffrage universel, bien, le Parlement, le bicamérisme, etc. Les juges du Conseil constitutionnel n'ont pas à gouverner en nos lieux et places. En gros, c'est ce qu'ils disent. Donc alors, on arrive donc à ce que régulièrement, et singulièrement maintenant en matière psychiatrique, depuis les QPC sur l'isolement contention, le gouvernement et une partie des parlementaires remettent en cause la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Bon. Donc alors, on en est à ce que donc cette proposition de loi des Républicains a été déposée récemment au bureau de l'Assemblée nationale, de sorte à empêcher que le fonctionnement des unités pour maladies difficiles soit mis à mal par la réglementation actuelle sur le contrôle judiciaire de l'isolement contention. Cela concernerait aussi les UHS. Alors de quoi s'agit-il ? Alors cette proposition de loi est porté par Stéphane Viry-Vauge, avocat de profession, membre de la Commission des affaires sociales, soutenu par d'autres membres, les Républicains de la Commission des affaires sociales, dont Philippe Juvin, professeur de médecine, par la vice-présidente de la Commission des finances, Véronique Louwagie. Alors, Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'est instauré en matière d'isolement contention, plus le contrôle périodique des hospitalisations sans consentement, enfin des maintiens, un contrôle du juge qui entrave les soins intensifs dans les UMD. Et ils disent qu'ils entendent, qu'ils demandent la modification de l'article spécifique sur l'isolement contention du Code de la santé publique, en ce que celui-ci doit être complété par la précision suivante, la mise en œuvre de ces dispositions, le contrôle judiciaire, pour le maintien obligatoire, se fait sans que cela porte préjudice au protocole de soins intensifs des mesures de sécurité particulières prévues à l'article réglementaire qui concerne le fonctionnement des unités pour malades difficiles. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est que le contrôle judiciaire obligatoire des maintiens en isolement contention oblige des transferts de patients, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs. C'est vraiment pas le cas, puisqu'il est prévu dans cette législation spécifique que les audiences de contrôle puissent se faire à distance, par visioconf. Donc, et puis, d'autre part, il est très, très faisable pour le médecin de l'UMD, le médecin psychiatre, de certifier que le patient n'est pas auditionnable. Donc ça pose pas de problème. Alors maintenant, reste l'avocat. Bon, voilà. Donc en fait, bon, il propose donc un aménagement, qu'il soit, que soit pris une disposition législative, comment dire, qui déroge de façon spéciale au cadre général. Bien. Mais ce faisant, qu'entendent-ils faire? Ils entendent neutraliser, en ce qui concerne les UMD et les UHSA, des précautions procédurales qui garantissent quand même les libertés des gens.
Oui, en somme, on peut plus contentionner, isoler en rond avec la présence du JLD.
Bien, du moins, oui, tout à fait. Enfin, il faut voir hein, maintenant. D'abord, il faut voir si ce sera inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Voilà, c'est une proposition de loi, c'est pas une initiative, gouvernementale. Objectivement, on demande à ce qu'il y ait une disposition qui fasse que, de façon dérogatoire, on ait moins d'astreinte procédurale que lorsque l'on est dans le cadre d'un hôpital psychiatrique classique, unité classique. Donc alors, on en est là, et cela, ça veut dire qu'on est au début d'une offensive législative sur le terrain psychiatrique. Alors, le deuxième point, alors après concertation, notamment avec moi et avec le Printemps de la psychiatrie, moi, les gens du Printemps de la psychiatrie, ces messieurs-là, les professionnels, ils sont très bien quand on les lit, et pas bien du tout quand on est en présence. Mais ça, c'est parce que c'est les professionnels, les malades, enfin, la hiérarchie, quoi. Bon, donc, alors, le texte est bien. Hein. Franchement, Mathieu, il est franchement pas mal. Hein. Alors, donc, ça a été publié dans le Club de Mediapart hier, et c'est un libre accès. Alors, bon, j'en donne lecture rapidement. Alors, le titre, « Les Pygmalions parlementaires de la psychiatrie sécuritaire ». Après l'attentat terroriste de la Tour Eiffel hein, du 2 décembre, décrit comme un ratage psychiatrique par Gérald Darmanin, le drame de Meaux de la fin du mois de décembre a donné l'occasion à Jean-François Copé, maire de cette commune, de s'émouvoir des problèmes psychiatriques dans une tribune. Un débat parlementaire doit se tenir mi-janvier sous l'impulsion des élus Les Républicains. En 2024, assisterons-nous à un nouvel épisode de la chasse à la folie, ou de la chasse aux fous? Pendant psychiatrique de la chasse à l'enfant, des enfants du bagne de Belle-Île racontés par Prévert et Sorge Chalandon, car la psychiatrie sécuritaire pourrait avoir de beaux jours devant elle. Dans ce moment où les libertés publiques et les garanties constitutionnelles sont affaiblies par des politiques brunes et scabreuses, certains des pygmalions de la psychiatrie sécuritaire s'apprêtent à sortir du bois. Après l'attentat terroriste de la Tour Eiffel et l'annonce d'un ratage psychiatrique par Darmanin, le drame de Meaux a donné l'occasion à Jean-François Copé, maire de cette commune, de s'émouvoir des problèmes psychiatriques dans une tribune intitulée « Maladie mentale, nous sommes tous concernés » et publiée dans l'Express le 3 janvier. Un débat parlementaire devrait se tenir. Et Jean-François Copé a même émis, de façon étonnante, un appel de pied au Printemps de la psychiatrie en disant que les autorités et le Parlement devraient écouter les propositions du Printemps de la psychiatrie, puisqu'il y aurait peut-être matière à en faire quelque chose. Il faut dire qu'il a il gère une commune qui n'est pas facile. Hein. Meaux, ce n'est pas facile. Hein. C'est très excentré, on est quasiment en province, et la chefferie de pôle psychiatrique là-bas, ce n'est pas rien. Hein. Vincent Mahé, c'est vraiment pas rien. Alors, ces derniers temps, à chaque histoire dramatique, le traitement médiatique de la psychiatrie renoue avec le sensationnalisme morbide. Il est utile de rappeler que pour des faits similaires, lors des soulèvements intervenus dans les HP en 2018-2019, les médias mettaient d'abord en avant la catastrophe psychiatrique organisée par les pouvoirs publics et les politiques successives. Aux côtés de certains drames inévitables, la croissance des tragédies évitables s'élucidait alors par la destruction des services publics psychiatriques, l'abandon des usagers patients psychiatrisés et des équipes de soins. L'explication simpliste du schizophrène dangereux à enfermer était moins prégnante. Cette parenthèse débutée sous le quinquennat Hollande s'est refermée avec la circulaire Collomb en mai 2018. C'est pas 19, hein, c'est 18. Cette dernière coagulait de nouveau les personnes hospitalisées sans leur consentement et les fichiers S pour terrorisme. Fichier OPSI Web de 2018, croisement autorisé avec le fichier terrorisme de ce fichier systématique des personnes en soins sans consentement. Dans l'après-Covid, le populisme pénal poursuit son grand retour et la figure du malade dangereux, du malade mental dangereux d'ailleurs, est remise au goût du jour pour contenter les bas instincts des médias bolorisés. La loi immigration a démontré que les politiques macronistes sous les ordres de la République se marient à celles d'extrême droite. Pour créer un tel arc républicain intégrant des éléments fascistes respectables, il est donc important de spectaculariser les faits divers et de jeter la honte sur la psychiatrie. L'été dernier, nous publions une tribune collective dans Le Parisien suite à un drame intervenu à Annecy où la santé psychique vacillante de la personne était pointée. Nous rappelions ce simple fait d'expérience, quand la folie n'est ni soignée ni accompagnée, elle peut se transformer en furie. Incriminer le seul déni de la personne, voire de ses proches, est profondément simpliste. Comment faire avec le déni sociétal, sciemment entretenu depuis des années, celui des politiques publiques qui refusent de traiter humainement la problématique du soin psychique pour les personnes les plus vulnérables ? À la fin de l'automne, le ministre de l'Intérieur a évoqué un ratage psychiatrique dans l'affaire de l'attentat terroriste de la Tour Eiffel. Il s'agissait d'un ratage des services de police et des services de renseignement. Hein ? En réalité, oui. Ces déclarations ont pu à bon compte éluder le ratage des services de renseignement et de l'arsenal juridique qu'ils ont déjà pour contraindre une personne suspecte. Dans cette séquence, les chantres de la Macronie ont presque réussi à faire croire au grand public qu'il n'était pas possible d'interner une personne d'office, une personne ayant des troubles psychiques et menaçant l'ordre public. Ça se fait tous les jours, mais bon. Les contre-vérités, l'incompétence et la méconnaissance, si ce n'est un cocktail des trois, ont permis la tenue de tels propos sur les plateaux télévisés. Il serait impossible pour le pouvoir administratif et policier de contraindre à une hospitalisation quand il y a des troubles psychiques avérés. Bah sur nous autres, hein, ils gênent pas. Hein. Moi, j'y ai réchappé, mais bon. Alors, cela est faux. Si la contrainte n'est pas possible, c'est qu'en réalité, les troubles psychiques ne sont pas avérés. Oh bon, on interne aussi des personnes dont les troubles psychiques ne sont pas avérés, mais bon. Alors, si ratage psychiatrique il y a, l'analyse des causes systémiques est un préalable. Raisonner, voire gouverner, à partir de faits divers, soumet trop souvent la raison aux émotions brutes auxquelles répondent une brutalité des solutions. Parce que bon, de fait, on est de nouveau de retour quand même à ce qui s'est passé sous Sarkozy, ou quand il y avait un fait divers, qu'il y avait une législation répressive qui tombait, quoi. Alors, ratage systémique. Le ratage systémique, ratage structurel, hein, ratage au fond. Le ratage systémique, c'est celui des politiques publiques criminelles que nous dénoncions avec le collectif Interurgence en 2019. Résoudre la crise profonde traversée par la psychiatrie publique serait de ne pas se contenter de réponses de surface comme celle des assises gouvernementales de la santé mentale septembre 2021 ou des contre-remèdes qui aggravent sans cesse la catastrophe gestionnaire. Par exemple, la mutation des pratiques qui se présentent comme du soin mais qui ne sont en réalité qu'un succès d'année de mesures de contrôle. L'isolement contention, la mise à la mode de ces pratiques et même leur systématisation, par exemple. Un succès d'années de mesures de soumission, voire d'avilissement des premiers concernés, donc des malades. Non seulement ces gadgets santé mentalistes ne résolvent rien, mais de surcroît, ils aggravent le niveau de défiance des citoyens vis-à-vis des soins psychiques. Est-ce une solution de médicamenter de façon massive et de façon quasi incontrôlée dépend de plus en plus large de la population. Prescription d'amphétamines chez les enfants, oxylitiques antidépresseurs chez les ados et les étudiants, hypnotiques et autres psychotropes dans la population adulte. Est-ce là la seule forme de soins possible? En réalité, ces politiques de santé nourrissent le nihilisme thérapeutique, on n'y peut rien, et les pulsions de contrôle et d'emprise des personnes troublées psychiquement. Les solutions simplistes restreignent notre capacité collective à penser un changement profond des affres de nos sociétés. Dans ce contexte, comment croire qu'un débat parlementaire sur la psychiatrie publique puisse être autre chose qu'une farce macabre destinée à faire endosser aux plus malades, aux plus pauvres, aux plus exclus, les heurts et malheurs des politiques publiques et des pratiques de soins délétères de ces dernières années ? Faudrait-il rappeler à mesdames et messieurs les parlementaires que la psychiatrie est revenue par trois fois à l'Assemblée nationale ces dernières années, 2020, 2021, 2022, par le biais de QPC, QPC posé à l'initiative d'avocats activistes soutenus par leur barreau.
Question prioritaire de constitutionnalité.
Oui, et soutenue évidemment par nous, et plus précisément par moi, puisque j'ai été publicitaire des premières jurisprudences en la matière. Il s'agissait, le CRPA, représenté par maître Jean-Marc Pamphili au Conseil constitutionnel. Il s'agissait alors de légiférer sur les inconstitutionnalités dans les mesures légales d'encadrement, des mesures d'isolement de contention dans les services de psychiatrie. À noter que durant, en ce qui concerne ces trois QPC se traduisant par deux réformes, il n'y a eu aucun débat d'ampleur au Parlement. Il n'y a même pas eu d'études d'impact, sauf ridicule, puisque c'était dans le cadre de deux projets de loi de financement de sécurité sociale. Ces projets de loi sur des masses financières énormes, dépassant 600 milliards d'euros, chaque PLFSS, projet de loi de financement de sécurité sociale, débattu en octobre-novembre tous les ans, ils font à peu près 150 articles. Et la réforme, ils ont fusé un article avec une petite étude d'impact, même pas exhaustive. On ne savait même pas combien de mesures d'isolement contention étaient pratiquées dans le pays. C'est ce que je veux dire. Donc rien à cirer non plus, alors attendez, aucun débat d'ampleur n'a jamais eu lieu lors de ces trois séquences, les penchants majoritaires de l'Assemblée ne montrant que peu d'intérêt sur de telles mesures, considérées comme thérapeutiques par le ministre de la Santé d'alors, M. Olivier Véran, actuel porte-parole du gouvernement. Ce silence complice et les voix pour s'en dégager est l'objet du livre « Abolir la contention » que nous encourageons à acheter de Mathieu Bellassène, récemment sorti chez un éditeur ayant comme travers d'être entre autres libertaire.
Voilà.
Mais ça, on a tous un travers de ce genre-là, donc c'est pas de notre faute, c'est notre maladie. Allez, hop. Rien à cirer non plus de créer de réels débouchés politiques comme mobilisation de collectifs de soins partout sur le territoire qui ont créé le printemps de la psychiatrie, ces messieurs, dames, leurs trucs, etc. Le plan santé mentale de feu Agnès Buzyn et du délégué ministériel de la psychiatrie, docteur Bellivier, certainement disparu aujourd'hui, n'a été qu'un plan de communication pour plateau télé. Des élus face à la réalité. Si un débat parlementaire doit se faire sur la psychiatrie, il s'agirait que les députés aient du courage. Est-ce possible dans un tel hémicycle, avec tous les précédents et les 49-3 gouvernementaux successifs ? Il est évident que de plus en plus d'élus locaux, quel que soit leur bord politique, éprouvent réellement la catastrophe psychiatrique sur le terrain. Bon Jean-François Copé. Un mot. Peut-être sont-ils choqués par les réalités racontées par leurs administrés. Parce que bon, les administrés, moi j'en fais partie, protestent. Moi, au cours de cette année, j'ai notamment protesté auprès du maire du 17e, qui est droite républicaine, sur les questions du trafic de stupes dans la cité HLM où j'habite. Bon, c'est normal, il faut se servir. Peut-être avait-il tendance à les ignorer jusque-là. Catastrophe organisée des services publics de santé, dont la psychiatrie publique, l'inflation des déserts médicaux, l'accroissement sans précédent des mesures violentes de soins, surmédication. Inflation des contentions des isolements psychiatriques, délai d'attente insupportable, impossibilité d'être tout simplement soigné, quand on est consentant aux soins, on ne peut plus accéder aux soins libres, c'est très difficile. Délai d'attente insupportable, impossibilité d'être tout simplement d'être soigné dignement quand le consentement n'est pas possible. Peut-être que le pragmatisme de terrain impose à ses élus un pragmatisme dans les pratiques, faire que les personnes avec des troubles psychiques soient prises en charge humainement. Certains parlementaires peuvent très bien s'en inquiéter. Peut-être est-ce à ce titre que certaines des propositions du printemps de la psychiatrie sont reprises dans la tribune du maire de Meaux, Jean-François Copé. Si tel est le cas, nous devons faire avancer collectivement, avec toute la complexité requise, une psychiatrie digne et accueillante. Est-ce que ce n'est pas un oxymore, une psychiatrie digne et accueillante ? parce que c'est pas le mariage de deux contraires, parce que c'est pas une aporie. Pour autant, nous devons nous interroger sur leur instrumentalisation possible et sur leur détournement au profit de logiques de renfermement. La suite nous dira dans quel sens se penche la balance. Rappelons tout de même que l'entourage du président Sarkozy était aux affaires. Quand le collectif des 39 se mobilisait contre la nuit sécuritaire à partir du 2 décembre 2008 et du discours d'Anthony du 2 décembre 2008. Que des choix politiques ont été faits alors, entre autres choses débloquer en urgence 70 millions d'euros pour relever la hauteur des murs, la visio-surveillance aussi, construire de nouvelles chambres d'isolement et augmenter le nombre du MD. Rien n'a été résolu, beaucoup de choses se sont aggravées depuis. Le débat parlementaire prévu le 17 janvier prochain avec Éric Ciotti, bien, co-organisateur et Marine Le Pen en embuscade, est à haut risque pour les personnes les plus malades, pour les libertés fondamentales, pour l'éthique et le secret médical. Le précédent de l'odieuse loi immigration précise le cadre parlementaire dans lequel risquent de se trouver exposés les malades psy. La vindicte populaire n'est pas loin. Et espérons que nos parlementaires ne se tournent pas vers l'autre côté de l'Atlantique, à savoir les USA. Ah non, 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 pardon. En Argentine, les dispositions du décret omnibus du nouveau président fasciste Milei concernent la psychiatrie. Au programme, toujours plus de contraintes aux soins, d'institutions asilaires, de cliniques privées, de psychotropes. Le programme des lobbies santé mentalistes français sans la novlangue et la communication autour de l'inclusion et de la déstigmatisation. Débattre sur la psychiatrie sans débattre à partir des pratiques concrètes et des droits des usagers est voué à l'échec et aux impasses dans lesquelles nous sommes collectivement empêtrés. Dans « Abolir la contention », j'aborde les sangles psychiatriques de la culture de l'entrave qui sont source de défiance dans le grand public, parmi les professionnels, au sein de la classe politique et pour les premiers concernés. Dans le dernier chapitre se trouvent des propositions à différents échelons, local, national, international. Elles pourraient servir la cause d'une loi soutenant une psychiatrie réellement soignante et qui ne se limiterait pas à l'accroissement sans fin des logiques sécuritaires. Un tel accroissement nourrit le nihilisme thérapeutique. Ce nihilisme concerne tout le monde. Nihilisme des politiques qui pensent qu'on ne peut rien faire pour les malades mentaux les plus en difficulté, si ce n'est les exclure et les faire disparaître du regard. Nihilisme du corps psychiatrique incapable de soutenir des soins psychiques réels. Dans notre définition, le corps psychiatrique va des tutelles qui mettent en application les politiques de santé, ARS, direction des hôpitaux psychiatriques, professionnels du soin à tous les niveaux de la hiérarchie, nihilisme du corps social à composer avec le tragique de l'existence humaine. Défaire ce nihilisme, c'est défaire un ratage collectif. Et pour le défaire, pas d'autre choix que de penser comment accueillir les personnes en grande difficulté psychique. Nos parlementaires auront-ils le courage de faire un tel virage politique à 180 degrés, accueillir plutôt qu'exclure ? Bon, Mathieu se veut optimiste. Oui. En réalité, je pense que les gens, enfin le collectif pour lequel ils rédigent, n'a pas clairement pris position en faveur des logiques du soin orientées vers le rétablissement, la fin de la chronicité, la fin de la maladie. Bien. Et ça, Mathieu fait partie des quelques des jeunes générations qui sont pour cela, précisément parce qu'il est des jeunes générations. Mais il est pris dans des logiques d'alliance avec des classiques des anciens courants qui, eux, rejettent tout ce qui est sorti de la maladie mentale. Pour eux, c'est les logiques psychanalytiques des dernières décennies, les logiques post-asilaires, sur lesquelles ils ont beau baratiner, ils refusent de reconnaître qu'il y ait des internements abusifs, ils refusent de reconnaître des rétablissements menés à bien, ils refusent d'estampiller des guérisons en bonne et due forme, ils refusent la sortie du ghetto psychiatrique éclaté dans lequel nous vivons et nous sommes enfermés. Pour eux, on est des clients patients dépendants et ils ont entendu, ils entendent toujours de façon nostalgique maintenir leur plein pouvoir sur un cheptel que nous formons, qui est passé de plusieurs centaines de milliers de personnes à plusieurs millions de personnes. Donc, à tout le moins, il est très important que des psychiatres comme Mathieu Bellassène, qui en ont pris dans la figure, qui ont pris la répression d'ailleurs, soient là et leur rappellent que sans les personnes concernées, sans les usagers, les psychiatrisés eux-mêmes, la psychiatrie actuelle ne peut plus tourner. Voilà, c'est important que ce soit rappelé. Voilà, donc deuxième point. Est-ce que tu veux faire une pause musicale ?
Pourquoi pas ?
Bon.
Alors on écoute Jean-Roger Cossimon, oui. Le gauchisme à la mode.
Je fais du gauchisme à la mode, oui j'ai lu ça dans un journal. C'est offensant, quoique banal, pourtant que la droite méthode. Si vous chantez la liberté, la justice, l'égalité, on vous traite de démagogue. Et dès que l'on vous catalogue, auteur dont il faut se méfier, de vous l'on écrit, c'est commode. Avec dédain, avec pitié, ce monsieur connaît son métier, il fait du gauchisme à la mort. Mode, il fait du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode, mais que fait ce pouvoir d'argent qui prend souci des pauvres gens, mais juste en certaines périodes, quand pensionnés et retraités de quelques francs sont augmentés, ce sont leurs voix que l'on raccole. Ils vont voter dans les écoles. 8 jours plus tard, l'immobilier brandissant les foudres du code les expulse de leur quartier. Dressez constat, monsieur l'huissier, je fais du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode, si quand je pense aux objecteurs traités comme des malfaiteurs, mon cœur point ne s'en accommode. Et que dire des étudiants que l'on fait chômeurs et mendiants, bien avant qu'ils n'aient leur diplôme. Quant au prince de son royaume, à l'intérieur bien intégré, vais-je lui consacrer une ode. Quand il traque les immigrés, non mon prince, mille regrets, je fais du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode et l'on me dit manipulé. Et l'on croit pouvoir révéler à quel parti je m'inféode. Allons messieurs, soyons sérieux, tout simplement j'ouvre les yeux. Je suis témoin de mon époque, le succès présent je m'en moque. L'histoire d'hier à nos jours fut écrite par des rhapsodes, des rimeurs et des troubadours. Le temps des cerises est bien court.
C'était du gauchisme à la mode.
C'était du gauchisme à la mode.
Ça nous rappellera le bon temps.
Oui.
On se faisait, oui, je m'en souviens, bon, c'est toujours le cas, sauf que je ne fréquente plus. On s'approchait les uns les autres, les démunis, les pauvres, les sous-prolos, les prolos, les laissés pour compte, et on prenait les rictus compassionnels de ces messieurs-dames gauchistes si chicos. Ah non, vraiment.
Donc, Jean-Roger Cossimon.
Le gauchisme à la mode.
Et c'est toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, avec André Bitton, le CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie.
Oui, alors donc, le troisième thème, c'est donc une polémique qui a démarré le 1er décembre dans le cadre d'un groupe de travail de la HAS, la Haute Autorité de Santé, sur la précarité et le rôle des pères aidants, la précarité santé mentale, et le rôle des pères aidants dans l'accompagnement et la prise en charge des personnes SDF précaires et développant des troubles mentaux. Donc, en fait, une dépêche d'Esprit Média, alors trois psychiatres très connus, ont démissionné de ce groupe de travail qui représente en fait les anciennes générations, sachant que dans les nouveaux métiers en santé mentale, dans les nouvelles donnes que s'efforce d'impulser le centre collaborateur OMS, la HAS notamment, et une part, le gouvernement hein, d'ailleurs, bien, des enjeux de pouvoir entre différentes écoles de professionnels et des générations de professionnels sont en place, avec la montée en puissance des pères aidants, donc des patients et anciens patients recrutés après formation pour être des paramédicaux, en quelque sorte des accompagnants, bien, médiateurs de santé pairs aussi, si vous voulez, des enjeux de pouvoir sur l'encadrement de ces néo-salariés, mais également la montée en puissance à l'intérieur de ces néo-salariés, des gens qui ont suffisamment de barriques, hein, ils sont suffisamment intelligents, costauds et dotés, puis introduits pour prendre un certain pouvoir, pour bien. Mais là-dessus, c'est essentiellement des conflits d'école entre professionnels pour avoir un pouvoir. Donc les trois psychiatres qui ont démissionné de ce groupe de travail qui siégeait dans ce groupe de travail de la HAS sur la précarité et la pérédance sont Ivan Halimi, éternel président de la conférence des présidents CME des CHS, 1,5 km de long. Le titre fait 1 km.
Oui.
Le professeur Jean-Louis Senon, qui préside le comité national de la psychiatrie, qui est un criminologue, ancien prof de psychiatrie au CHU de Poitiers, et qui préside le comité national de la psychiatrie, formé autour du docteur Bélivier auprès du ministre de la Santé, des ministres successifs de la Santé depuis Agnès Buzyn. Et enfin Alain Mercuel, qui dirige le programme Chez Soi d'abord sur Paris, et qui est quelqu'un de l'intersyndicale défense de la psychiatrie publique, très médicament, et qui est en quelque sorte celui qui gère les questions de précarité sur Paris. Bon. Donc en fait, ils représentent, ces trois psychiatres représentent des féodaux et des féodalités en place. Bien ouais. Des autorités psychiatriques académiques, bien si on préfère, qui entendent maintenir leur pouvoir et maintenir bien. Alors là-dessus, je vais donner lecture de la dépêche de Splimédia du 6 décembre qui résume bien la problématique. Le 6 décembre, alors Caroline Cordier de Splimédia. Des représentants de la psychiatrie dénoncent dans une lettre ouverte au président de la Haute Autorité de Santé la façon dont serait traité le sujet de la pérédance dans une future recommandation sur la précarité et les troubles psychiques. À ces nouveaux métiers, ça pose problème, hein, c'est pas la question. Mais qu'il y ait une impasse carrée et nette à l'insertion, réinsertion de personnes ayant connu ou connaissant la psychiatrie qui acquièrent une compétence en la matière, ça, c'est un autre problème. Dans une lettre ouverte adressée le 1er décembre au président de la HAS, Lionel Collet, trois psychiatres impliqués dans les travaux de l'autorité dénoncent la façon dont est traité le sujet de la pérédance dans une future recommandation intitulée « Grande précarité et troubles psychiques ». Le docteur Ivan Halimi, président du comité de suivi psychiatrie santé mentale de la HAS, le professeur Jean-Louis Senon, membre expert de la commission recommandation pertinence, parcours et indicateurs, le docteur Alain Mercuel, coprésident du groupe de travail sur la grande précarité et les troubles psychiques, annoncent même dans ces circonstances leur démission de ces différentes fonctions. On pourrait réagir, et moi je réagirais ainsi, tant mieux. Bon, ça fait un peu de neuf. On va avoir de nouvelles têtes. Bon. Un sujet complexe à traiter en soi. Leur critique est double, à la fois méthodologique et sur le fond. Ne pas avoir traité ce sujet de la pérédance à hauteur des enjeux, c'est-à-dire dans une recommandation dédiée, ainsi que ne pas évoquer les problématiques de la formation et de l'encadrement des pérédants, alors que des dispositions législatives seraient nécessaires selon eux. Oui, ça, c'est vrai. Ça, il faudra un encadrement. Parce que bon, en France, on procède en la matière par du droit mou. Du droit qui n'est pas opposable. On expérimente, puis on met du droit non opposable, puis petit à petit on grimpe comme cela, et en ayant aussi peu de contraintes que possible, si bien que les dirigeants en place font ce qu'ils veulent. Parce qu'il n'y a même pas de garantie pour les gens. Parce que ça, tant qu'il n'y a pas de texte opposable, il n'y a pas de garantie. C'est ça qu'il faut voir. Alors, nous nous voyons dans l'obligation de nous désolidariser auprès de vous de la recommandation « Grande précarité et troubles psychiques », écrivent-ils au président de la HAS. Car à l'évidence, nous n'avons pas été entendus quant au traitement de la pérédance dans cette recommandation qui apparaît, une recommandation à venir, qui apparaît comme une véritable recommandation dans la recommandation, alors que l'importance majeure de ce sujet nécessite un travail spécifique approfondi pour suivre les signataires du courrier. C'est-à-dire que dans le cadre de la recommandation qui est en cours d'élaboration sur la précarité, il est prévu un sous-sujet sur la pérédance des nouveaux métiers en santé mentale dans l'accompagnement des personnes précaires. Et eux disent que le traitement de cette recommandation, à l'intérieur de cette recommandation, si bon, emboîtée, nécessiterait un traitement à part. Et s'ils disent ça, c'est précisément pour déclencher quelque chose de dilatoire qui retarde la rédaction de cette recommandation à l'intérieur de la recommandation. Donc en fait, ils freinent l'élaboration d'un texte qui va commencer à être opposable, une recommandation de l'HAS, sur la pérédance. Donc en réalité, ils visent le contraire de ce qu'ils déclarent. Hein ? Mais ça, c'est comme d'habitude. Une publication prévue début 2024. Contactée ce 6 décembre au sujet de cette lettre ouverte, la HAS indique à Ospimédia qu'elle réserve pour l'heure sa communication au signataire du courrier. Elle indique qu'elle sera disposée à échanger avec la presse sur la teneur de cette recommandation lors de sa publication programmée courant janvier, ce mois-ci, 2024. À l'heure, seule la note de cadrage relative à cette recommandation est en ligne depuis septembre 2021. Sur le site de la Haute Autorité, selon nos informations, plusieurs versions successives de cette future publication ont été rédigées jusqu'ici. Une première mouture de ces travaux avait suscité des réactions très négatives d'un grand nombre de représentants des acteurs de la psychiatrie, notamment sur le traitement de la pérédance, souligne-t-il. Cette situation sans précédent depuis la mise en place du comité de suivi psychiatrie santé mentale en 2013, à propos, c'est il y a 10 ans, à propos de la production de la HAS en psychiatrie, avait d'ailleurs conduit à organiser une réunion extraordinaire le 30 mai 2023, 10 ans après. Il s'agissait de s'efforcer de prendre en compte les vives réserves qui s'étaient exprimées, et ce, dans un souci d'appropriation des recommandations par les acteurs de terrain. Mais les psychiatres constatent que cela n'a pas permis de prendre en compte leurs alertes. Ils expliquent longuement dans ce courrier que la pérédance en psychiatrie est un sujet complexe qui doit être abordé de manière globale, parce qu'il concerne l'ensemble des patients et pas seulement les patients en situation de grande précarité. C'est d'ailleurs avec cette indispensable approche globale qu'il figure, au regard de son importance, dans les premières priorités de notre projet du programme Psychiatrie Santé Mentale 2024-2029, qui vous a été communiqué, souligne les psychiatres à la HAS, insistant sur le fait que ce sujet majeur pour l'avenir de notre discipline ne peut être traité au détour d'une recommandation. Nécessité d'un cadre pour la pérédance. Sur un sujet d'une telle importance, les recommandations sur la pérédance en psychiatrie santé mentale devront faire l'objet d'un travail spécifique dédié, travail mené par un groupe dont la composition devra prendre en compte la diversité des approches, insiste-t-il. Ce groupe doit être clairement mandaté pour approfondir cette question et élaborer sans angélisme des recommandations de bonnes pratiques, mesurant les bénéfices mais aussi précisant les limites du cadre d'exercice, notamment en matière de responsabilité légale. Car cette recommandation pourra également engager la responsabilité de la HAS, qui a la personnalité juridique, en cas d'événement indésirable grave impliquant un pérédant, souligne les signataires. Pour mener à bien ces travaux, le groupe dédié ne peut voir sa démarche assujettie ou en contradiction avec des recommandations préexistantes, récentes, de la HAS sur le même sujet, sauf à disqualifier les productions de notre institution. Le traitement de la pérédance dans les recommandations à venir ne manquera pas d'impacter très négativement la fiabilité des travaux de la HAS en matière de psychiatrie santé mentale auprès des acteurs de terrain, estime-t-il, refusant par conséquent d'y apporter leur caution. Ils demandent que soit mentionnée lors de la publication de la recommandation leur position commune, exprimée via cette lettre ouverte. Ils concluent en expliquant que cette situation, qui vient malheureusement traduire un climat de travail très nouveau et inhabituel pour eux à l'HAS, ne leur permet plus de poursuivre utilement leurs fonctions au sein de la haute autorité. C'est simple, ils sont contestés par des néo-professionnels émergents, des jeunes générations, dont Mme Céline Descamps, avec qui j'ai correspondu, qui siège là et qui a organisé la riposte, avec ceux, bon voilà, et qui entendent que les vacances de poste paramédicales dans les établissements psychiatriques et dans les parcours de soins soient occupées par des gens eux-mêmes concernés, certes expédiés à la va-vite, mais qui feront leur expérience sur le terrain. Évidemment, le défaut d'encadrement est béant. Le défaut de protection de ces néo-salariés que sont les patients et anciens patients embauchés à la va-vite sont vraiment très graves. Mais empêcher le progrès, comme le font systématiquement ces classiques de la psychiatrie, empêcher l'émergence d'une voix, de l'expertise des personnes concernées, moi, je trouve que c'est franchement pas supportable. C'est refuser, en quelque sorte, c'est la volonté, alors que les autres ont une volonté pas claire non plus, hein, je veux dire, d'embaucher au rabais des gens qui pourront aller en rechute et dont on n'a rien à fiche, qui ne seront même pas défendus par les syndicats hospitaliers. Hein. Voilà, on a discuté très longuement avec Philippe Maugiron, notamment, récemment. Mais empêcher ce progrès, ça n'est pas moins un progrès, c'est vraiment se foutre du monde. Et on a là les féodalités en place en matière psychiatrique. Dès qu'on veut bouger, dès qu'on veut changer, hop, les lobbies se précipitent avec leurs porte-parole pour bloquer les réformes, pour bloquer le changement. C'est insupportable. Vraiment. Alors, la riposte, moi j'ai signé la lettre ouverte en réplique à ça, organisée par Mme Céline Descamps, qui est une normalienne qui a été chargée de mission à la DGOS pendant 2 ans, puis qui a quitté, et qui travaille sur le projet territorial de santé mentale au Vinatier, qui est le Vinatier à Bron, qui est dirigé par ce cadre de choc très Pascal Mariotti, un jour là, paf, comme ça, le char hygiéniste en avant, le panzer hygiéniste, comme d'habitude. Mais Céline Descamps est une femme, bon, elle s'en fiche au niveau carrière, elle est sortante de l'école normale supérieure. Donc sa carrière, elle est assurée, les normaliens, ils ont... Hein, donc, mais c'est une femme de conviction. Et donc, elle, alors la lettre qu'elle a, en riposte qu'elle a montée, qui est signée par les éléments, comment dire, qui entendent faire bouger les choses, des technos, hein, mais également des gens dans nos rangs, hein, me paraît pas mal. Alors, en parallèle, il y a eu une autre riposte organisée par des pères aidants déjà en fonction eux-mêmes et qui demande aux 3 psychiatres démissionnaires de venir faire un tour là, sur le lieu de travail, pour se rendre compte de ce qu'ils arrivent à faire. Moi, j'aurais tendance à leur recommander de se faire admettre en psychiatrie pour des troubles psychotiques, pour savoir ce que ça fait, mais bon. C'est déjà pas mal. Donc alors, la lettre ouverte en réponse à la démission de ces 3 présidents, organisée par Mme Céline Descamps, est signée prioritairement par Pascal Mariotti, directeur général du Vinatier, président de l'Assemblée des directeurs d'établissements des établissements psychiatriques publics, Mme Marie-Jeanne Richard, présidente de l'UNAFAM, Laurent Beaumont, président de l'Assemblée nationale des responsables qualité en psychiatrie. On voit que l'AFNEPSI a disparu là-dedans. Bien. Lettre ouverte au président de la Haute Autorité de Santé, Monsieur le Président. Et cette lettre est en date, qu'est-ce qu'elle n'est pas datée ? Je crois que c'est du 10 ou du 12 décembre. Si, elle est du 11 décembre. Alors, Monsieur le Président, nous avons pris connaissance avec beaucoup d'inquiétude et d'indignation du courrier conjoint des docteurs Halimi et Mercuel et du professeur Senon, dans lequel ils récusent l'inscription de la pair aidance dans la recommandation à intervenir auprès des personnes en situation de grande précarité présentant des troubles psychiques, validés par le collège de la HAS en date du 30 novembre dernier. Quoi qu'en disent aujourd'hui les signataires de ce courrier, l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques sur les pratiques orientées rétablissement, sortie de maladie, hein, quand même, dans lesquelles s'inscrit la pair aidance, que nous avons sollicité auprès de la HAS depuis plusieurs années en tant que membre du comité de suivi psychiatrie santé mentale, a toujours été écartée par ces mêmes acteurs sur des motifs peu clairs. Ben, ils sont de l'école de la chronicité. Mais relevant globalement d'une disqualification a priori de ces pratiques. Il ne nous semble donc aujourd'hui pas entendable de renvoyer la référence à la pair aidance à de futurs travaux dont on pressent, en vue des présupposés énoncés dans le courrier, qu'ils n'aboutiront pas rapidement. Une telle demande relève d'une posture dilatoire à laquelle nous ne saurions souscrire. C'est-à-dire, ils bloquent, ils font comme d'habitude, les lobbies montent au créneau pour bloquer les réformes. Ils entendent, ils ont leur féodalité, oui. Ils ont leur prérogative, ils gèrent à l'inertie. Voilà. Oui. Voilà. Et ça, c'est lamentable. Nous pensons que des recommandations sur la pair aidance en santé mentale seront utiles et nécessaires. Elles ne sauraient toutefois s'inscrire dans les schémas de pensée que véhicule ce courrier, par ailleurs peu clair, voire abscons, dans certains de ses développements. Elles devront par ailleurs être évolutives et flexibles, à l'instar d'une pratique en construction, et qu'il sera encore pendant de nombreuses années. La pertinence et l'efficacité de la pérédance dans l'amélioration des parcours des personnes présentant une double situation de précarité et de troubles psychiques font l'objet de preuves solides. Et en France, c'est que le début. Hein. À l'étranger, ça fait longtemps que c'est avéré. Dans les pays de culture anglo-saxonne, en Suisse et autres, au Québec, etc. Même si la situation hospitalière est dramatique dans ces pays. Hein. C'est à ce titre et avec cette légitimité que la pérédance figure dans la recommandation incriminée dont nous avons pu prendre connaissance et dont nous saluons l'excellence. Le débat contradictoire ayant eu lieu, il convient que le processus démocratique suive son cours avec la publication de la recommandation dans sa version validée par le Collège. Nous prenons note de la démission des personnalités signataires de la lettre ouverte de leur fonction actuelle à la HAS. Dans la continuité de demandes déjà formulées auprès du docteur Halimi, nous nous tenons à votre disposition pour réfléchir avec vous et vos services à une évolution de la composition du comité de suivi psychiatrie et santé mentale qui permette une représentation des acteurs plus en phase avec la réalité des évolutions et des transformations que nous observons et accompagnons sur ce terrain en psychiatrie, loin des conservatismes exprimés. Il importe notamment que cette instance fasse une place aux pères aidants. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pères aidants qui sont inclus dans ces travaux de la HAS. Ceux qui sont inclus, la seule personne, patiente ex-patiente inclus, c'est Claude Finkelstein, qui est de plus en plus cacochyme, de plus en plus malade, de plus en plus atone. Il semble qu'elle ait perdu la vue. Par DMLA, la dégénérescence maculaire.
D'accord.
Enfin, nous tenons à affirmer notre plein soutien au mandat de la HAS sur la production de recommandations de bonnes pratiques conformes aux connaissances scientifiques actualisées. Il nous semble capital que ce mandat ne soit pas entravé sur le champ de la psychiatrie par l'influence de parties prenantes dont l'adhésion à la notion même de bonnes pratiques pose souvent question. Nous le devons aux patients, à leurs proches et à l'ensemble des professionnels engagés pour une psychiatrie moderne, ajustée aux connaissances scientifiques et aux attentes des personnes. Donc voilà. Donc on en est là. Et donc, l'élaboration de cette recommandation suit son cours. Tu peux faire une pause ?
Oui. Alors, cette fois, on va écouter... Le monde bouge de François Béranger.
Oui.
Mais partout le monde bouge, mais partout le monde éclate, là où règne le silence. Certains font porter leur voix jusqu'au rempart du royaume. Où l'on n'adore que l'or. Vous tout là-haut dans vos bastions à gouverner cités et nations. Ne voyez-vous pas qu'il est trop tard, qu'il est trop tard, qu'il est trop tard. Se fera sans vous ou contre vous. Que le monde se fera sans vous ou contre vous. Ils nous disent les censeurs que les grèves ne sont que rêves. Les grévistes des rêveurs vivant quelques heures brèves. Que les vieilles réalités sauront bientôt les briser. Foutre tout là-haut dans vos bastions à gouverner cités et nations. Ne voyez-vous pas qu'il est trop tard, qu'il est trop tard, qu'il est trop tard. Que le monde se fera sans vous ou contre vous. Se fera sans vous ou contre vous. En d'autres temps, en d'autres lieux, des rêveurs de temps meilleurs se sont battus, souvent sont morts contre vos forces innombrables. on sait bien qu'il le faudra encore. Mille réveils de l'armée de sang. Mais vous tout là-haut, dans vos bastions, à opprimer cités et nations, vous connaîtrez un jour l'heure où les rêveurs viendront pour vous demander raison de l'oppression. Viendront pour vous demander raison de l'oppression. Oui, bien trop tard, que le monde se fera sans vous ou contre vous.
C'est toujours l'entonnoir sur Radio Libertaire 89.4.
Alors, donc, je reprends. Donc, une jurisprudence de la Cour de cassation du 6 décembre 2023, commentée sur Dalloz Actualités, retient l'attention. Il faut savoir que le droit de l'internement psychiatrique, c'est une construction jurisprudentielle. Hein. C'est par la jurisprudence, et c'est la jurisprudence qui a amené à ce que des textes législatifs nouveaux et des dispositions réglementaires soient prises. Ouais. C'est ce qu'on appelle une construction prétorienne. Prétorienne, ça veut dire que les juges, le pouvoir judiciaire s'affirme comme étant un pouvoir autonome pouvant générer du droit. Alors que le droit, générer du droit, c'est la prérogative d'une part de l'exécutif, d'autre part du pouvoir législatif.
Eh oui.
Bon, donc c'est le principe de séparation des pouvoirs. Et donc, c'est sur cet arrêt de cette décision de cassation rappelle le principe fondamental de la publicité des débats. Ça veut dire que la justice est rendue publiquement et contradictoirement. Deux principes, le principe de contradiction. Les parties doivent pouvoir échanger des arguments et c'est l'autorité judiciaire qui tranche. Et d'autre part, cette justice est rendue classiquement au nom du peuple français, donc publiquement. Donc en audience publique. Donc les décisions sont publiques, sauf et diffusées, d'ailleurs l'open data des histoires de justice, sauf anonymisation des noms, etc. Et pourquoi donc ? Bien précisément pour que, enfin, sauf les matières pour lesquelles le huis clos est nécessaire, les affaires de mœurs, affaires mineures. Bon. Pourquoi donc ? C'est pour que la justice s'opère sous le contrôle démocratique, sous le contrôle populaire. Alors là-dessus, ça pose vraiment problème, puisque on a vu ainsi, dans le cas du film 12 jours 2017 au Vinatier, que ce principe de publicité des débats a pu se traduire de la façon suivante. Les patients qui passent au contrôle obligatoire judiciaire sont accompagnés par des membres de l'équipe soignante dans la salle, si bien que s'ils mouffent, c'est reporté à l'équipe et les représailles tombent. Alors, les patients, comme le juge, hein, comme l'autorité, enfin l'autorité décisionnaire de la mesure de placement, peuvent demander le huis clos. Peuvent demander que ce soit ce qu'on... Le huis clos, c'est chambre du conseil. Hein. Huis clos, deux points, le terme juridique, c'est chambre du conseil. Donc, de façon en dehors du public. Le magistrat peut l'imposer. Voilà. S'il juge que c'est nécessaire. Cela étant, les personnes patientes peuvent très bien, qui comparaissent au contrôle judiciaire, peuvent très bien dire « Moi, j'ai besoin que la porte soit ouverte, que cela se passe publiquement, parce qu'il y a un comité de soutien, parce que des journalistes sont appelés, etc. etc. » Mais cependant, on voit que ça pose problème. On voit que d'un côté, certaines personnes internées auraient tout à fait intérêt au huis clos, d'autres pas du tout. Donc, bien. Donc, alors, ce que rappelle cet arrêt de cassation du 6 décembre, qui est quand même très important, alors, c'est un arrêt de principe, hein, publié au bulletin, c'est que l'ordonnance du juge des libertés et des détentions, ou du magistrat de la cour d'appel en cas d'appel, doit stipuler que ce principe de publicité des débats a été mis en œuvre. Donc, que le magistrat doit préciser dans son ordonnance, avec son greffier, que soit il a pris une décision de huis clos, soit une des parties a demandé un huis clos, et que, en tout cas, à défaut, bien, l'audience s'est passée publiquement. Sinon, c'est une nullité procédurale en portant la cassation. Bon, donc c'est intéressant puisque, en gros, mais ça c'est le byzantinisme, les casuistiques juridiques hein, qui dépassent tout à fait les personnes non initiées. Mais c'est important puisque cela oblige les magistrats et leurs greffes formellement à motiver dans leur ordonnance qu'ils ont pris en compte cette obligation de la publicité des débats et qu'ils notifient, qu'ils mettent dans l'ordonnance qu'ils l'ont respecté. Tu vois, tout le moins. Alors, le commentaire, c'est par notre magistrat placé Cédric Hélène, docteur en droit chargé d'enseignement à l'université d'Aix-Marseille, qui est rédacteur habituel pour Dalloz Actualités. Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la décision refusant une main levée de soins psychiatriques sans consentement, refusant une main levée, doit faire ressortir soit des énonciations de celle-ci, soit des pièces de la procédure, que les règles de publicité des débats ont été respectées.
Oui.
C'est un formalisme obligatoire. Alors, on va dire que tout cela a quand même une nette importance parce que la Cour de cassation, depuis de nombreuses années, plus précisément depuis 5 ans, depuis 2019, bien, a remis en question les rigueurs du formalisme juridique. À savoir que dans le droit des libertés publiques, comment dire, ça c'est le fameux principe de droit public d'un juriste, comment dire, allemand, un juriste de droit public allemand très important dont j'ai plus le nom en tête, qui disait la forme, le formalisme est sœur jumelle de la liberté. C'est-à-dire qu'en matière de privation de liberté prise par les détenteurs du pouvoir, le formalisme juridique selon lequel on prive de liberté, c'est cela qui garantit la liberté de la personne détenue. Parce que précisément, le prince et ses délégués n'ont pas ce droit de mettre sous clé, de mettre au vert, d'enfermer des personnes en ne respectant pas le formalisme juridique. Or, la Cour de cassation a neutralisé cela dans les contrôles judiciaires des soins sans consentement en disant à répétition et de façon constante que des nullités de droit formel n'entraînent pas d'office une main levée, sauf si la défense peut prouver que ces nullités portent atteinte aux droits de la personne. Droits de la personne, il faut entendre, sauf si ces nullités bien, vont de pair avec le fait que la mesure elle-même est mal fondée. Mais à ce moment-là, qu'en est-il des droits des malades ? Parce que, je veux dire, si on prend un détenu carcéral ou quelqu'un qui comparaît correctionnel en assis, etc., enfin, pour lequel une incarcération est prévue ou des mesures de genre-là, les rigueurs du formalisme s'imposent. Oui. D'élever des coups en cours sur des nullités. Eh bien, on revient à une situation antérieure, celle qui a toujours prévalu dans la psychiatrie française, selon laquelle, il s'agit de malades mentaux, eh bien, les rigueurs du formalisme juridique, on s'en fout.
Oui, oui.
Eh bien, ça, c'est pas supportable.
D'accord.
Eh bien, donc, rappeler, alors, la Cour de cassation a une position comme ça. Il faut savoir que les magistrats, dans leur masse, les avocats aussi, d'ailleurs, étaient opposés à la judiciarisation. Et on a pu voir dans un récent documentaire de LCP sur le naufrage de la psychiatrie, avec notamment un économiste retraité spécialiste, un économiste en santé spécialiste des questions de santé mentale, Jean de Kervas-Doué, un émérite hein, maintenant, un octogénaire, dire oui, on a maintenant dans l'internement psychiatrique, dans les hospitalisations sans consentement, une loi folle qui n'est ni respectée ni respectable. C'est-à-dire que les droits des fous, c'est par aberration et par folie pure et simple qu'on est amené à respecter un droit quelconque selon une législation folle, ni respectée ni respectable. Eh bien, dire cela de gens qui détiennent des fonctions de responsabilité, c'est vraiment très grave. C'est prouver de façon superfétatoire que le regard qu'on porte à la population des malades ou des personnes recrutées malades les frappe d'inhumanité. C'est vraiment scandaleux.
Eh bien, c'est sur ces mots que se termine l'entonnoir pour cette semaine. Et nous vous disons au revoir.
De soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith.